Frédéric Lordon. Là, on a compris. Les auditeurs prennent des notes. Et donc, le monde va changer dans les...
Oh, bah dans le quart d'heure, c'est, ça me paraît évident.
Dans la semaine. Mais quand même, ce crack financier, il a eu pour effet une certaine récession économique. Il y a un lien entre ce crack financier et l'économie. Et puis, il y a un lien extrêmement violent entre cette théologie du marché, cette théologie du profit, et puis la gestion des entreprises.
Oui.
On le voit actuellement avec la crise chez France Télécom, privatisée en grande partie, et puis avec la Poste qui a l'air de dériver elle aussi vers la privatisation. Est-ce qu'on peut évoquer ça ?
Bah oui, on peut, je dirais même qu'on doit. C'est une manière de revenir sur le thème qu'on a abordé tout à l'heure, c'est-à-dire le thème de la crise financière symptôme, la crise financière épiphénomène d'une crise plus profonde, qui est une crise structurelle, crise de la configuration présente du capitalisme en tant qu'elle donne lieu, qu'elle soutient ce que j'appelle, pour faire simple, alors il y a des appellations analytiquement plus rigoureuses et plus précises, mais pour faire simple, un capitalisme de basse pression salariale. Et ce capitalisme de basse pression salariale, il est structuré autour de deux grandes contraintes structurelles. La première contrainte, c'est la contrainte actionnariale. La contrainte de dégager, faites aux entreprises de dégager toujours plus de rentabilité à servir l'actionnaire. Et la deuxième contrainte, c'est la contrainte concurrentielle. Bon. On voit bien que la synergie de ces deux contraintes opère un effet de tenaille absolument mortel qui voue le salaire à devenir une variable d'ajustement envoyée dans une dynamique de compression indéfinie. Bon. Alors ça, c'est, je dirais, l'appréciation quantitative des choses. On pourrait prendre cette affaire de contrainte actionnariale, puisque, je veux dire, enfin, c'est exactement de ça dont il va être question lorsqu'on va parler de France Télécom et qu'on va évoquer le destin de la Poste. Plus qualitativement parlant, il faut se demander pourquoi la symbiose de la contrainte actionnariale et de la contrainte concurrentielle est à ce point toxique. Car il faut le dire, je veux dire, c'est le plongement dans un univers ultra-concurrentiel qui exalte, en quelque sorte, qui démultiplie les effets de nuisance de la contrainte actionnariale. Sous l'injonction actionnariale de dégager sans fin de la rentabilité financière, la concurrence a pour effet de placer tous les agents en position d'avoir à défendre des intérêts vitaux. Et ça, de haut en bas de la pyramide hiérarchique. Parce que le paradoxe, d'une certaine manière, c'est que ça commence avec le patron lui-même. N'est-ce pas ? Le patron qui est plus du tout le seul maître à bord après Dieu dans l'entreprise. Maintenant, il a sur le dos les actionnaires et les marchés financiers.
Et la concurrence aussi.
Et la concurrence.
C'est deux arguments. Le gars va dire, mais attendez, il y a une telle concurrence qu'on est obligé de se conduire comme ça. Et puis, il y a les actionnaires qui sont derrière nous et on est obligé de se conduire comme ça.
Et alors, ce qui est tragique, c'est que cet argument ne peut pas être balayé du revers de la main, car il est objectivement bien fondé. Qu'il soit instrumenté de la plus cynique et de la plus brutale des manières, n'empêche pas que c'est contraintes-là sont bel et bien là. Et alors, pour le patron, c'est assez terrible, parce que s'il ne donne pas satisfaction, il sautera. Et il sautera selon l'enchaînement fatal suivant, sous-performance, baisse du cours de l'action, menace d'OPA, débarquement de toute l'équipe dirigeante. Et même avant l'OPA, si par hasard il y avait un petit putsch de conseil d'administration, on se débarrasserait du patron mal performant dans de meilleurs délais. Or, le patron ne veut qu'une chose, il veut persévérer dans son être patronal. Parce que c'est toute sa vie. Je veux dire, l'ivresse de conduire une grande entreprise mondialisée, le salaire à millions, les stocks options, les retraites chapeaux, c'est son existence même de patron, c'est ce qui fait sa joie d'individu. Alors, je veux dire, il ne se laissera pas déposséder de ça sans rien faire.
Ok, allez, madame la présidente, on est prêt.
Madame la présidente, oui, alors on est d'accord alors. Hein. Vous vous adressez directement à vos employés, ce sera diffusé sur un écran géant. Hein. Vous allez voir, on a fait quelque chose de très bien, de très chic. Donc de la sincérité, de la sincérité.
Oui, donc j'essaie d'être moi-même, d'être sincère.
Voilà, on peut pas mieux dire. J'essaie d'être crédible.
J'essaie d'être crédible, quoi.
Voilà,
ok, d'accord.
Super, je vous embrasse.
Ok. Bon, on y va ?
Action !
Ok. Bonsoir à tous. L'énorme succès de nos montres calculettes a permis de multiplier notre chiffre d'affaires par 38,2. C'est pourquoi les trois quarts de nos effectifs seront licenciés avant Noël. Désolé.
Coupé ! Wow, génial !
J'étais bien ?
Génial, super classe ! Bravo, extraordinaire ! C'est super, vachement bien ! Oh,
c'était vraiment très intéressant.
Et c'est là que je dis que le patron est ce que j'appelle le maillon faible paradoxal. C'est-à-dire, d'un côté, il est le plus vulnérable